Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez Pièces détachées, l'émission qui parle du spectacle vivant en Ile-de-France et à la radio. Et nous avons pris l'antenne en avance puisqu'il n'y a personne à Radio Campus, on en profite, on a pris le pouvoir. Et on va vous parler, comme d'habitude, des arts vivants. C'est une émission qui a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Mariani pour sa pièce « Ma foudre ». Qui se joue à partir de d'après-demain, de mercredi, au théâtre du troisième type à Saint-Denis. Mais avant ça, quelques mots préparés par notre rédacteur en chef, Guillaume, qui a souhaité cette semaine explorer ce qu'on explore d'habitude pas vraiment, aller voir ce qu'on ne voit pas souvent, les spectacles où on paye au chapeau, ceux où on a... la possibilité d'expérimenter les formes qui vont nous ravir ensuite. Donc c'est ce que vous écouterez tout à l'heure, c'est quelques morceaux choisis, les petites pépites dégotées par Guillaume seront dans nos chroniques tout à l'heure, vous avez l'habitude. Mais nous allons commencer, après un petit générique, par l'interview.
Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
Et nous revoici en studio avec Laura Mariani. Laura Mariani, bonjour.
Bonjour.
Alors, Laura Mariani, vous êtes là pour nous parler de votre pièce « Ma foudre » que Guillaume et moi n'avons pas vue, mais que nous
non,
avons lu.
On l'a pas vue, mais on m'entend pas. Hein.
On ne t'entend pas ? Si, bon. Si, moi je t'entends.
Vous m'entendez ?
On t'entend.
C'est très bien. Ah oui, parce que c'est à zéro.
Je n'entends pas non plus.
On se met pas à zéro.
Voilà, maintenant on s'entend.
On règle le volume.
on est en train de faire les réglages.
Là,
vous assistez à tout, c'est dommage, vous n'avez pas l'image. Alors, cette pièce, Ma foudre, elle fait partie d'une trilogie, on y reviendra. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est de votre point de vue, la trilogie, vous y reviendrez, mais ce spectacle-là, c'est un spectacle qui parle de folie, qui parle d'amour, qui parle de famille. Qui parle de tout ça à la fois ?
Oui, tout ça à la fois, complètement. Ça parle de, c'est les trois thèmes, disons, de la trilogie en tout cas, c'est la neurodiversité, donc les personnes qui vont avoir des troubles psychiques, qui vont avoir des neurodivergences, la famille et le désir au sens large, le désir comme socle de la construction de l'identité. C'est ça que je désire et donc c'est ce qui va me définir en tant qu'être humain. Donc ça parle des trois.
Ça parle bien des trois, et pour avoir regardé un petit peu le casting des deux spectacles, c'est vraiment une affaire d'équipe.
Oui, oui.
Est-ce
oui,
que ça, vous auriez la possibilité un peu de nous parler justement de cette équipe, de comment elle se construit, comment elle fonctionne ?
Oui, alors on s'est tous rencontrés il y a longtemps, la compagnie elle a été créée il y a 17 ans presque maintenant. Et on était une dizaine à l'époque, donc tous on s'est rencontrés dans la même école de théâtre et on a commencé à faire des spectacles ensemble et puis des personnes sont parties pour faire d'autres métiers et d'autres sont arrivées et là voilà, on est une dizaine et c'est vrai que moi c'est important pour moi de travailler toujours avec la même équipe, avec les mêmes comédiens, cet esprit de troupe. Et donc, on aime beaucoup ça. On est à la fois amis, en plus que collègues, évidemment.
Et l'écriture, elle est signée par vous, mais elle est un peu collective ou non ? Ça, c'est clairement votre domaine.
Alors, elle est signée par moi, mais on travaille beaucoup en improvisation. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer à l'avance des personnages une histoire. Et avant d'écrire les dialogues, en général, ce que je fais, c'est qu'on se fait une réunion de travail tous ensemble et je leur dis, toi, tu vas jouer tel personnage et voici son passé. Et je raconte finalement aux acteurs les personnages qu'ils vont interpréter avant même qu'ils aient un texte, puisque le texte n'existe pas encore de toute façon. Donc je leur raconte tout ce qui leur est arrivé, etc., quels sont les liens qu'ils ont avec les autres personnages. Et après ça, on fait beaucoup d'improvisation autour des différentes... scène du spectacle que j'imagine, du texte. Et à partir de leurs improvisations, je vais m'appuyer là-dessus pour écrire ensuite les dialogues et vraiment les scènes en elles-mêmes. Donc, il y a quelque chose de collectif quand même, oui.
Alors qu'au final, ce qu'on a eu devant les yeux, Guillaume comme moi, le texte, il semble au contraire très, très cadré. Les didascalies sont vraiment très nettes. Il y a vraiment quelque chose qui, à ce moment-là, est vraiment gravé.
Oui, bien sûr, parce que en fait, au départ, on fait des improvisations, ce qui va nous permettre d'ensuite graver, comme vous dites, dans le papier et surtout sur le plateau, parce que finalement, on écrit plus des spectacles que des textes en soi, dans le sens où tout vient du plateau, tout vient de comment ça fonctionne au plateau, est-ce que ça marche, est-ce qu'on y croit. Et d'ailleurs, le fait d'écrire, c'est super, parce que moi, je vais écrire des scènes, par exemple, et on va aller en répétition, les acteurs vont jouer, ils vont essayer. Et là, on se dit, non, en fait, ça marche pas. Ce serait plus... Et eux, les acteurs me disent, mais ce serait plus logique que je dise ça à tel moment. Et là, moi, je prends mon ordi, je modifie le texte et... Alors là, il se trouve qu'il a été édité, donc on a dû quand même terminer quelque chose. Mais parfois, jusqu'à la veille de la première, on modifie. Et même encore aujourd'hui, alors que le texte est imprimé, en fait, il y a des choses qui sont un peu modifiées.
Et y compris sur la première phase, dans la répartition des rôles, où ça se fige relativement vite ?
Non, la répartition des rôles quand même dès le départ, oui. Oui, dès le départ, je leur dis, tu vas jouer ça, et ça continue.
Et donc, comme disait Julien, c'est une trilogie, hein, donc c'est la deuxième partie de la trilogie. La première partie, on a eu la chance de la voir aux Têtes de Belleville. Donc ça s'appelait « Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu ».
Oui.
Alors, moi j'ai un souvenir extrêmement pop et triste. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je m'étais... parce qu'il y avait ces deux jeunes filles qui étaient neuro, comme vous dites...
Neuroatypiques.
Neuroatypiques, exactement. Et qui... et qui chante dans tous les sens. Donc il y avait vraiment un côté, une espèce d'énergie, un côté pop, électro, qui était, ça brillait de partout. J'ai ces souvenirs-là. Mm-hmm. Après, ce spectacle-là, évidemment, on l'a lu. Donc on n'arrive pas à s'imaginer. C'est quoi encore c'est la même personne qui fait la musique, c'est encore un truc explosif dans tous les sens. Il va y avoir des moments où est-ce que c'est plus... Enfin bon, peut-être on découvrira, enfin c'est parce que c'est cette semaine que ça passe.
Mais après je peux en parler un petit peu quand même. Oui, c'est la même personne qui fait la musique, qui s'appelle Romain Mariani, qui est donc mon frère, parce qu'il a le même nom que moi.
D'accord. Et...
c'est pas mon mari, c'est mon frère.
D'accord.
Et voilà, et donc oui, forcément, il y a plusieurs choses qui ressemblent. En fait, moi, j'aime bien l'idée de creuser un peu un sillon, quelque chose. Parfois, il y a des artistes qui vont faire des œuvres qui vont se ressembler et des gens vont dire « Ah, ben, il ou elle fait toujours la même chose. » Et moi, en fait, j'aime bien. Enfin, je trouve ça intéressant. Alors, pas de faire exactement la même chose, mais de creuser, en fait. Pour moi, c'est l'intérêt d'avoir une patte, c'est de creuser quelque chose. Et là, dans Ma Foudre... on a les mêmes thématiques, on a les mêmes comédiens, le même musicien, mais en fait on va un peu plus loin dans les troubles du cerveau. En réalité, on plonge un peu plus profond. Il y a encore du chant dans le spectacle, il y a encore de la musique, il y a des moments justement pop, je sais pas, mais oui, il y a des paillettes en tout cas. Il y a pas mal de choses qui se retrouvent. Il y a des gens qui ont vu les deux spectacles et qui ont dit c'est marrant, c'est à la fois très similaire et très différent. Et je trouve que c'est chouette.
D'accord. Donc là, cette fois-ci, là, dans ce spectacle, vous explorez donc un thème qui arrive très tardivement. Enfin, genre le mot apparaît très tardivement dans le spectacle. Donc moi je connaissais pas, enfin moi après je me suis dit ah d'accord c'est ça, mais ça s'appelle l'érotomanie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça...
Oui, donc l'érotomanie c'est un trouble psychiatrique qui est classé dans les psychoses, qui est assez rare, et c'est la conviction délirante d'être aimé.
D'accord.
Donc le personnage principal c'est une jeune femme qui s'appelle Olive et qui est persuadée que son ostéopathe est amoureux d'elle, alors que pas du tout.
Mais moi, je suis persuadé que ma gonzesse m'aime bien aussi. Donc, est-ce que je suis érotomane ?
Ça dépend. Si ta gonzesse t'aime bien, réellement, t'es pas érotomane.
Ah oui, parce que là, il y a effectivement un problème avec l'ostéopathe.
C'est-à-dire que lui, il ne l'aime pas. Mais pas du tout réciproque.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est cette phase. Alors, pareil, on a du mal à se représenter forcément sur scène la place que ça prend. Mais dans la version écrite, il y a quand même tout un moment où on se demande
si c'est
lui qui mène une double vie ou si voilà ce moment-là. Et c'est vrai que c'est
rêve,
oui. Et on est dans le doute et on est dans cette situation où on se demande un peu. J'imagine qu'on est tous là à vouloir prendre un parti théorique. Avant que ça se révèle effectivement être l'érotomanie.
Oui, c'est l'idée du texte et du spectacle, c'est vraiment de laisser le spectateur, le lecteur douter le plus longtemps possible, parce que j'avais vraiment envie que les gens soient immergés dans la tête de cette jeune femme d'Olive, parce qu'elle, elle y croit.
Oui, elle s'appelle
et
Olive.
Elle s'appelle Olive, oui, le personnage principal. Et donc, en fait, j'avais envie qu'on y croit autant qu'elle, elle y croit. Et que finalement, sa perception du monde, elle est déformée, elle est par rapport à notre réalité à nous. Et c'est comment on fait en sorte que les spectateurs, eux aussi, aient une perception déformée, la même que la sienne, pour qu'on entre, on soit réellement en empathie avec elle.
Oui, parce que finalement, on n'a que au départ, que sa version à elle. Donc on se dit,
on a son point de vue à elle.
Elle a son point de vue, voilà, excellent, c'est ça, point de vue. je n'avais pas le mot. Olive, elle a une petite voix dans la tête qui revient. Et c'est quoi le rôle de cette petite voix? Est-ce que c'est quelque chose qui existe au niveau psychiatrique ou je sais pas dire médical?
Il y a pas qu'elle d'ailleurs qui écoute.
Alors justement ça, on y reviendra après. Mais d'abord elle l'a, cette petite voix.
Alors c'est pas quelque chose qui va être lié à l'érotomanie. Quand on est érotomane, on n'a pas une voix dans la tête.
D'accord.
Ça c'est plus quelque chose qui va être lié à la schizophrénie ou à d'autres types de psychose. Mais là, cette voix, c'était pas forcément pour parler de la maladie en soi, mais... Alors, il faut pas que je spoile, parce que là, je peux spoiler quelque chose en parlant, mais on peut imaginer que c'est une forme d'inconscient, l'inconscient qui... On a tous, en fait, des petites voix dans notre tête. Alors, est-ce que c'est des pensées intrusives? Est-ce que c'est vraiment une voix qu'on entend? En tout cas, là, l'idée, c'était de donner à entendre, en fait, comment elle perçoit justement le monde. Et cette voix, elle lui donne des ordres.
Ouais, des injonctions.
Des injonctions qu'elle suit. Donc, l'autre personnage, donc, qui est le... personnage donc de son frère, d'Adrien, entend aussi cette voix.
Mais c'est la sienne ou c'est la même?
Enfin, c'est la, voilà. Ils entendent la même voix qu'est la voix de quelqu'un qui les lit.
D'accord.
Il ne faut pas trop en dire, attention, là, mais qu'est-ce qu'on dérape?
On va faire une petite pause musicale.
On va faire une petite pause musicale et puis on aura une petite explication de la pause musicale après. Mais alors attendez, je vais passer de l'autre côté, à la pause musicale. À
puisque
tout de suite.
C'est ça quand
à tout de suite, à tous.
Guillaume se retrouve à la fois aux manettes, à l'interview, à la rédaction en chef. Il faut que je meuble le temps qu'il change de pièce. Vous voyez comme je fais ça tout en délicatesse. En attendant
Mesdames, musique. Messieurs, bonsoir. Alerte météo. Après les très fortes chaleurs qui se sont abattues sur de nombreuses régions ces derniers jours, avec des températures dépassant la barre des 40 degrés, on reste sous l'influence d'une dominance anticyclonique. Alerte orange, en particulier sur le département du Puy-de-Dôme, avec des orages qui pourraient se montrer particulièrement violents et s'accompagner de grêles, voire de fronts de rafales. Nous attendons des phénomènes tourbillonnaires et pourquoi pas des impacts de foudre. Soyez donc extrêmement vigilants. Le mieux, c'est encore de rester chez vous et d'écouter avec moi le musical de Serge Lacroix.
Trop de temps sur les routes, trop de temps dans le noir. À poursuivre mes doutes, dérive au désespoir. Sur la scène en déroute, on écrit son histoire. Dans les loges où l'on doute, j'éternis le miroir. Je fais mes adieux au musical ce soir. Je fais mes adieux au Music Hall ce soir. Courir après ses rêves et les bruits de couloir. Pour flatter son ego, décrocher les victoires. Et faire briller vos yeux, quitte à vous laisser croire. Que j'ai touché les cieux sans vraiment le vouloir. Je fais mes adieux au Music Hall ce soir. Je fais mes adieux au Music Hall ce soir.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 96.9.
Et nous
vous
sommes toujours avec Laura Mariani. Et on écoute quoi ?
Dans l'émission Pièces détachées. Bah, alors qu'est-ce qu'on écoutait, Laura Mariani ?
On écoutait un extrait du spectacle. On a d'abord eu une petite annonce météo qui ne correspond pas forcément à la météo d'aujourd'hui, puisqu'il a neigé et qu'elle annonçait des canicules.
Ah. Donc, dans le... Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Bah parce que dans le spectacle...
Non, enfin, pourquoi cette discordance avec la réalité ?
Bah, à ça.
Pour créer le trouble chez nos auditeurs. C'est,
exactement. Bon, c'est... Et dans d'accord. Le spectacle, enfin, tout se passe en plein été, en pleine canicule, là où il y a les orages, évidemment. Et donc, on écoutait ça, et donc, dans ce petit extrait radiophonique qui passe dans le spectacle... la journaliste annonce donc le Music Hall de Serge Lacroix, et Serge Lacroix est un personnage fictif qui est donc le père d'Olive Lacroix et d'Adrien Lacroix, les personnages principaux.
Absolument.
Donc qui était musicien, et donc on a enregistré cette chanson exprès pour le spectacle. Donc,
et c'est votre frère qu'on écoutait ?
Absolument, c'est donc lui, Serge Lacroix.
Ah d'accord, oui. Ah parce qu'il est sur scène, c'est vrai ?
Oui.
Très bien, ça j'adore ça quand il y a des musiciens sur scène. Il y a également des... Enfin bon, je ne sais pas si vous avez discuté de trucs. Mais moi, il y a un truc qui me marque toujours. Enfin, parce que, évidemment, je ne connais pas bien. Moi, c'est les problèmes neuro... comment on dit ?
Divergent.
Je ne sais même pas.
Neurodivergent, neuroatypique.
Ça devient énervant.
Oui, il y a quelque chose de différent entre neurodivergent, neuroatypique, des
non.
termes... D'accord.
Parce que neuroatypique, finalement, on a l'impression que... Bon, il est neuroatypique. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un un peu sympa. Mais vous allez voir, il est différent. Alors que là, tout de suite, on se confronte quand même. Si c'est une... Olive est une personne neuroatypique. Elle est confrontée très rapidement à donc son entourage de médecins.
Mmh.
Donc voilà, donc sa demi-sœur et puis son beau-frère.
Oui, sa demi-sœur, elle est infirmière en hôpital psychiatrique et son beau-frère, il est psychiatre.
Et donc il diagnostique plutôt carrément un problème.
Oui, c'est ça. Ils se rendent compte assez vite que surtout donc le psychiatre qu'il y a un problème en effet, que elle. En fait, c'est une personne qui a toujours été dépressive, qui a jamais eu vraiment d'étincelles de vie, qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes par son passé. Et soudainement, elle rencontre cet homme et elle devient extrêmement up quoi. Elle a des phases très 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 de joie très intense. Et elle commence à raconter des choses qui ont peu de sens. Donc,
j'avais peur de le dire et de divulgâcher, mais là, vous venez de le dire. Effectivement, il y a ce moment où elle a l'air effectivement rayonnante de cette histoire d'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui est justement quelque chose de typique de l'érotomanie, ce côté quelqu'un qui passe brutalement de oui. l'effondrement complet à...
Oui, complètement. En fait, c'est ce qui est passionnant dans l'érotomanie, et c'est pour ça que j'ai voulu traiter de ça, c'est qu'en réalité, c'est un mécanisme de survie. Le cerveau crée un leurre pour que la personne survive à ce qui n'est pas vivable. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont en général avoir une très grande carence affective, notamment dans l'enfance. Entre 3 et 5 ans, c'est l'apprentissage du sentiment amoureux. Et si entre 3 et 5 ans, il y a eu un événement tragique, un abandon des parents, une mort soudaine, il peut se créer, heureusement pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes qui vont avoir des fragilités psychologiques, il peut se créer l'érotomanie. Et donc, ça fait que si on n'a pas la sensation d'avoir été aimé de manière inconditionnelle par nos parents, eh ben, on peut avoir cette sensation que personne ne peut nous aimer et d'avoir une estime de nous-mêmes extrêmement basse. Et donc, c'est le cas d'Olive où, en fait, elle va être dans une dépression très profonde, à se dire bah, « en fait, personne ne peut m'aimer », à se sous-évaluer énormément. Et tout d'un coup, le cerveau, finalement, quand la personne est au plus mal et que presque prête à se donner la mort, en fait, le cerveau, il va créer une sorte d'alerte générale. Il va dire « non, là, elle va se buter, il faut faire un truc, quoi. » Et donc là, le cerveau crée un leurre pour survivre, une fiction, en fait, qui est plus entendable que la réalité. Et la personne va s'y accrocher pour continuer à vivre. Et donc là, il va y avoir une sorte de...
De confirmation permanent. Quoi, parce qu'elle voit l'amour partout, les signes d'amour, alors que finalement, il ne se passe absolument rien. Et puis en plus, les gens sont très clairs face à elle pour dire il n'y a rien. Mais elle interprète tout
exactement.
Dans ce sens-là.
En fait, c'est le déni le plus profond. Enfin, c'est vraiment, il a beau lui dire non, je ne t'aime pas. Ah mais si, c'est parce que ta femme, etc., parce que tu te caches tes sentiments. Enfin, le cerveau, il fait tout pour y croire, pour que la personne réussisse à vivre encore. Quoi.
Et comment on écrit une trilogie justement sur ces questions-là? Est-ce qu'on se plonge dans les livres? Il y a ce
DSM-5.
DSM-5, est-ce que c'est là-dessus qu'on travaille? Est-ce que c'est en allant discuter avec des psys?
Alors, je n'ai pas lu le DSM-5, il faudrait peut-être que je le fasse. Mais,
pour la deuxième trilogie?
Oui, c'est ça. Non, en réalité, moi, je connais un peu les hôpitaux psychiatriques parce que quand j'étais enfant, j'ai pas mal côtoyé. Ma mère était bipolaire, donc du coup... on allait beaucoup la voir justement avec mon frère à l'hôpital. Donc enfin, il y avait un rapport comme ça à la psychiatrie qui m'a toujours un peu forcément intéressée. Et aussi, j'ai donné des ateliers théâtre à des personnes autistes et trisomiques pendant 4 ans, ce qui m'a permis de vraiment me questionner sur la norme, justement. C'est quoi être neuro-atypique? C'est quoi être normal? Et finalement, si on voit la normalité comme le plus grand nombre, le plus grand nombre de personnes a deux bras, c'est donc normal d'avoir deux bras. Là, dans l'espace-temps donné de l'atelier théâtre, ils étaient 12 et moi j'étais la seule à ne pas. Enfin, ils étaient 12 à avoir handicap mental et moi j'étais la seule à ne pas en avoir. Donc c'est moi qui n'étais pas normale.
Et faire jouer des personnes, parce que ça me fait penser immédiatement à un groupe là qui s'appelle Astéréotypie.
Oui, oui.
Sinon, tu as la compagnie de l'Oiseau-Mouche aussi, oui. Dans le Nord.
Mais qui mettent, c'est une énorme claque rock et punk par des gens atypiques.
Oui, oui, c'est ça.
Mais c'est une véritable claque, c'est une claque au premier degré. On ne se dit pas, je vois quelqu'un de neuro, je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment une claque. Est-ce que tu as envisagé de faire jouer? Je crois que je m'étais posé la question à l'époque pour la jeune fille. Mmh. Pourquoi pas faire jouer directement quelqu'un, je ne sais pas.
Je l'ai envisagé et peut-être que je le ferai à l'avenir. Là, pour l'instant, moi, j'avais mon équipe de comédiens, comédiennes avec qui j'avais envie de travailler. Et ça s'est pas présenté. Et puis, j'avais écrit le texte aussi avant de me poser cette question. Donc, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, donc, j'ai déjà travaillé, entre guillemets, avec des personnes neuro-atypiques dans le cadre d'ateliers. Donc, je suis plutôt habituée. Et donc, parce que vous me demandiez pourquoi, comment on plonge là-dedans. Et donc, j'ai rencontré énormément de personnes qui avaient des troubles psychiques. Donc, à la fois des déficiences mentales, de l'autisme, de la trisomie, mais aussi des personnes bipolaires, schizophrènes, en grande dépression. Et donc, quand, à chaque fois que je me dis que je vais écrire sur un sujet, je fais en sorte de rencontrer des personnes qui vont avoir ce tel ou tel trouble, et surtout à rencontrer des psychiatres et des personnes du corps médical pour me renseigner vraiment et pour pas raconter n'importe quoi et que ce soit très documenté. Et je regarde énormément Internet.
Mais là, dans ce cas particulier, si je comprends bien une partie du fil de la pièce, c'est que quand on est érotomane, on ne le sait pas.
Oui, on ne le sait pas. Mais j'ai quand même rencontré une personne qui était érotomane et qui le savait parce qu'elle en était sortie, entre guillemets, même si on ne peut pas vraiment sortir, mais c'est un peu comme la schizophrénie. C'est-à-dire que tu peux prendre des neuroleptiques qui font que ça va calmer tes délires, mais tu vas toujours rester érotomane. Si tu ne prends pas tes médicaments, tu le seras toujours.
D'accord.
Et donc cette femme que j'ai rencontrée savait qu'elle était érotomane et en même temps, elle continuait à dire oui, mais lui, il m'aime vraiment. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre du déni, quoi, qui était...
Oui, parce que l'érotomane peut devenir dangereuse. Enfin, là, dans ce cas-là, apparemment, elle peut... Oui.
Oui, et à la fois, moi, j'ai pas envie, justement, de diaboliser ça, mais de faire en sorte qu'on comprenne aussi ces personnes-là et le pourquoi. Enfin, on parlait d'un film tout à l'heure, il y a un film avec Audrey Tautou qui s'appelle À la folie pas du tout, dans lequel on suit beaucoup le personnage masculin. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de creuser le personnage érotomane et de comprendre pourquoi, en fait, et d'où ça vient, et pas juste « Ah, elle est folle, c'est dangereux », mais que, en fait, ce soit comment ça arrive dans l'enfance et qu'en fait, elle est victime aussi, finalement.
Oui, bien sûr. Oui, enfin, c'est vrai que toute la partie, le début du film, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit qu'elle vit vraiment sa vraie vie d'amoureuse, Audrey Tautou. Est-ce que ça ne se guérit pas? Mais est-ce qu'on... Parce que moi, j'ai toujours l'image ultra débile des médecins qui t'assomment avec des médocs. Et après, en fait, tu es juste dans une espèce de camisole chimique. Mais là, est-ce que tu peux revivre normalement avec ces neuroleptiques ou c'est un truc...
C'est un peu compliqué. En fait, c'est des dosages. Et en fait, apparemment, c'est très compliqué de trouver le bon dosage de médicaments qui te convient. Et je sais que la personne que j'avais rencontrée m'avait dit « Mais moi, en fait, mes neuroleptiques, je ne les prends pas parce que j'aime pas comment ça me modifie, c'est plus moi. » Et donc, j'accepte des fois d'avoir des phases de délire et je préfère ça plutôt que... Mais elle n'était pas du tout dangereuse. Enfin, tu vois, t'as des gens... Enfin, il y a aussi des niveaux, quoi.
Ouais. Et puis, je vois aussi la... Enfin, je parle de l'intérieur de moi. Voilà. Non, mais pardon.
Non, mais c'est pas une consultation, Guillaume.
Non, mais je me renseigne parce que je suis peut-être aussi papa. Voilà. Mais il y a un gigantesque déni des gens autour, parce que là, bon, elle a bien de la chance, entre guillemets, d'avoir des gens du corps médical orienté psy. Mais je veux dire, comment capter ça? Moi, si ça avait été... j'aurais réagi comme le frère. Quoi. C'est si ma sœur, je l'aurais défendu. J'aurais dit, mais ce salaud, pourquoi il fait ça, ma sœur? Et il y a le déni comme ça, il y a le déni de la police aussi. Il y a tous ces dénis. C'est fou, en fait, on n'est tellement pas au courant que... Enfin bon, c'est pas vraiment une question.
Non, mais oui,
c'est très bien décrit dans la pièce, quoi.
Ce qui m'intéresse, c'est de, parce qu'on disait que ça parlait aussi de la famille, c'est de voir finalement ce type de trouble, comment ça va impacter aussi la famille et comment aider sans trahir. Et est-ce que interner quelqu'un de force contre son gré, c'est l'aider ou c'est le trahir?
Oui, il n'y a pas la réponse. Ça semble terrible.
C'est terrible de faire ça. C'est une trahison pour Olive. Elle se fait interner de force par sa sœur. C'est horrible. Et en même temps, c'est peut-être la seule solution pour qu'elle s'en sorte. Donc c'est ambivalent. Moi, j'aime quand les choses sont aussi ambivalentes et complexes et comme dans la vie, pas manichéennes.
Ouais. Et on sent aussi que c'est quelque chose qui semble héréditaire un peu, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui se baladent comme dans Jodorowsky?
C'est vrai que le père, on dit dans la pièce que le père avait des troubles psy aussi. Alors il n'était pas forcément érotomane, mais il avait des fragilités psychologiques. C'est comme ça qu'on le présente. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris en me renseignant sur tout ça, c'est que bah, tu as des prédestinations, tout comme il y a des gens, ils vont souvent dire ah, est-ce que dans votre famille il y a eu des cancers ? Bah, en psychiatrie, c'est la même chose. Est-ce que dans votre famille il y a eu des troubles psy ? Ah, bah oui, donc voilà. Donc oui, ça peut jouer.
D'accord.
T'as peur ?
Bah non, mais là je suis en train de réfléchir à ma famille parce qu'ils sont un peu toqués quand même. Mais des gentils toqués.
On va peut-être conclure là-dessus.
Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, le temps passe, c'est passé.
Le temps passe, oui, effectivement.
Est-ce qu'on redit quand même ? Donc c'est au 3T, hein, à Saint-Denis.
À Saint-Denis, pour 3 jours.
Pour 3 jours, c'est quoi, 7, 8,
c'est
9 ?
C'est le 7, 8 et 9 janvier.
Mercredi, voilà. Jeudi, vendredi, il reste des places ?
Oui, il reste donc quelques places.
19h30. Alors il y a une place qui a été prise par notre chroniqueur de choc, Thomas, qui habite derrière les 3T. Donc dépêchez-vous. Nous on va y aller, pourquoi pas.
On va y aller.
Il reste quelques places, mais plus beaucoup, donc dépêchez-vous.
Oui, non, mais alors dépêchez-vous vraiment. voilà.
Et avant de se quitter, quand même, puisque on va entendre juste après un autre choix de Laura Mariani, je vous invite à nous expliquer ce choix.
C'est Lio, donc c'est Amoureux solitaire de Lio, qui est, bah vous allez très vite le comprendre en écoutant les paroles, ça parle des gens qui sont amoureux tout seuls et qui se font des films dans leur tête.
Bah oui, et puis Ma foudre, c'est quand même un super titre, c'est carrément un truc quoi.
Oui.
Eh bien merci beaucoup.
Merci à vous
beaucoup,
de votre
Laura
invitation.
Mariani. Merci beaucoup.
Merci.
Un peu de beauté plastique.
Et toi aussi, auditeurice, dis-nous que tu nous aimes. C'était Amoureux solitaire de Lio, le deuxième choix de Laura Mariani qui était avec nous pour sa pièce Ma foudre, que vous pouvez voir mercredi, jeudi et vendredi à 19h30 au 3T, le théâtre du troisième type à Saint-Denis. Mais vous l'attendiez, c'est l'heure des chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Cinq spectacles ou expériences de scène pour notre émission du jour. Il y aura les jams poésiques à Malakoff, fanfare expérience électrique par la troupe du Cirque électrique, Les petites filles modernes, théâtre provisoire, titre provisoire, Dolores, recherchant à la fois l'argent et la gloire, et Fantas Show. Commençons avec Alice et les jams poésiques, le coup de cœur expérimental de notre rédacteur en chef.
Alors, Guigui m'a invité à aller découvrir cette soirée slam juste à côté de chez moi.
C'est une émission à proximité ce mois-ci.
Oui, alors... c'était poésique, c'est poésie, musique, et je me suis dit, ça c'est Alice. En plus, c'est gratuit et tout ça, donc, et puis c'est très amateur.
Donc alors, le côté amateur, super. Effectivement, était bien là. C'était, alors, j'avais trouvé que l'invitation, enfin, le texte était très, enfin, engagé vraiment à venir écouter une soirée jam poésique, donc, comme tu disais, mélange poésie-musique, improvisée. Donc, c'est 11 soirées organisées par la Bibliothèque associative de Malakoff. Je suis arrivée, les personnes étaient plutôt très. Enfin. Avec des objets de récupération, une vieille machine à écrire.
Des personnes âgées.
Des objets insolites. Et donc, au niveau musical, c'était vraiment rigolo. Il y avait une ambiance sonore et tout le monde pouvait participer. Donc, il y avait aussi des objets musicaux comme comment ça s'appelle, l'arbre de pluie, enfin des choses comme ça. Une personne venait sur scène pour dire un poème. Alors, côté poésie, j'étais un petit peu déçue. C'était plutôt des poèmes très connus. Il n'y avait pas du tout de poèmes, on va dire, créés par les personnes qui auraient improvisé, à mon sens, des mots bien à eux. Mais malgré tout, l'intention est sympathique. Le résultat n'était pas exceptionnel. Après, à voir sur la durée, hein, y a 11 sessions, donc là, j'ai peut-être pas trop eu de chance.
Après, moi, c'était une proposition pour que tu ailles voir. Et je sais que toi, tu es passionné de scènes comme ça. Et tu dois en connaître plein. Et je suis carrément curieux de voir d'autres choses, quoi. Donc, à découvrir, quoi, un dossier un peu ouvert.
Alors,
quoi, peut-être.
Effectivement, j'allais régulièrement dans un café qui s'appelait le Downtown, où... un homme organisé qui avait une histoire assez intéressante. Ça fait un clin d'œil à la folie. C'était quelqu'un qui avait perdu la raison et qui a retrouvé sens à la vie par la poésie. Et il organisait des scènes slam dans un café qui était vraiment comme un, on va dire, ça me faisait penser un peu à un port du bout du monde où des voyageurs arrivaient de tous horizons et pouvaient improviser un texte qui était souvent d'une grande originalité et avec une l'assurance d'être écouté et d'avoir une grande qualité d'écoute et une grande qualité aussi de texte. Donc moi, c'est vrai que j'étais assez accro à cette scène. Bon, après, j'ai un peu laissé tomber avec le Covid et tout. Mais c'est vrai que je recherche ce genre d'endroit.
Donc c'est où les poésiques, redis-nous. C'est
alors,
une fois
à Malakoff, la bibliothèque associative de Malakoff.
La BAM.
Voilà.
Et les prochaines, pour les Malakoffios, les Malakoffiotes et les voisins-voisines, c'est le 22 janvier à 19h30.
Eh ben, alors, super. J'ai quand même entendu un très beau poème de Jacques Prévert, qui a été improvisé en duo d'une façon très originale. Oui, c'était Dans ma maison, vous viendrez. Et je vous invite à, pourquoi pas, vous faire votre idée.
Et on va continuer avec Fanfare, expérience électrique.
Oui.
C'est toi,
c'est
Thomas.
C'est moi qui m'y colle. Et bon, vous le savez, moi, le cirque, j'aime pas ça. aucun intérêt, hein, les clowns.
Et donc
c'est
là, t'es converti. Désormais,
c'est
tu aimes le
drôle,
cirque.
C'est pas drôle. Les jongleurs, n'en parlons pas. Ça me renvoie violemment à ma propre incompétence motrice, à cette incapacité chronique à savoir quoi faire de mes deux mains, de mon corps, même en général. Donc c'est quand faux. Guigui me propose la fanfare expérience électrique,
alors qu'on le voit faire des roues dans le couloir.
Je dis oui, mais un oui très intérieur, très sceptique. Je me dis, y a que les idiots qui changent pas d'avis, donc ok, bon, allons-y. Et puis bon, bah, faut entretenir sa réputation de vieux con élitiste, amateur de Castellucci et de spectacles où personne ne rit jamais. Me voilà donc par un froid glacial devant un chapiteau, à me demander comment on chauffe un truc pareil sans brûler la planète. Guigui est évidemment en retard, et là, horreur absolue, les enfants arrivent en masse. Je suis de ceux qui prennent des billets en première, hein, pour fuir les enfants et surtout leurs parents, ces adultes qui ont renoncé à toute élégance, qui pourraient boire du matcha au lilas mais préfèrent sortir avec leur mini-eux en plein après-midi. Et puis les portes s'ouvrent et là, enchantement. Bah déjà, il fait chaud, hein, alors vraiment chaud. Ensuite, la magie opère. Hein, je me surprends à avoir envie de hurler avec les enfants que l'ours est derrière la dame, comme dans Guignol. Oui, les enfants sont des balances. Hein, la France des collabos n'est pas morte, mais quelle joie. Oh là 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 là. Et surtout, mais quel spectacle. La fanfare expérience électrique, c'est tout ce que le cirque peut être quand il arrête de se prendre au sérieux. Une piste en 360 degrés, aucun fil conducteur, ou plutôt 1000, des numéros qui surgissent, ce télescope disparaissent, trapèze, acrobatie, banquine, claquette bancale, danse rythmique, musicaux déglingués, cartoon vivant, pop culture, blablabla. Une fausse comédie musicale qui assume sa naïveté comme une arme politique. Et puis la musique, bah, pas n'importe laquelle, du rock punk, du vrai à la Stooges, celui qui sauvera peut-être vos enfants de la K-pop dégénérée. Ici, pas d'IA, pas de génération artificielle, du souffle, de la sueur, du raté, du vivant, un antidote parfait à l'époque. Les artistes ont des noms de drag queen, et rien que ça, ça me rend heureux. La contorsionniste, elle s'appelle Flexi Tiger, non mais j'adore. Il y a un pianiste fou, des jongleurs lovers, un chandelier trapèze, une femme à la natte la plus longue du monde, une chanteuse enceinte, un ours groucho qui fait du fil de fer. On est sur scène avec eux, à 2 mètres, parfois à 2 cm. Guigui n'arrivait plus à me tenir, je voulais le costume de l'ours. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il faut y aller. L'énergie est folle. C'est joyeux, bête, intelligent, généreux, indiscipliné. Un contrepoint parfait aux horreurs du moment. Voilà, moi j'en redemande.
Non, bah, bravo Thomas, bravo.
Bah, il moi, était temps Thomas.
Merci pour ce cri de joie Thomas.
J'ai un tout petit retour. C'est quand même un spectacle à partir de 3 ans. Donc évidemment, ce n'était pas sympa pour Thomas. Mais c'est l'équipe du Cirque électrique. Donc c'est les mêmes qu'on avait vus pour le cabaret décadent.
Ce sont des
grands malades. Et ce que ne dit pas Thomas.
Et il y avait des frites.
Alors il y avait des frites, je pense, après à la Free Kids Party. Parce que vous ne venez pas seulement pour un spectacle. Après, vous faites la teuf avec les amis du cirque. Donc nous y étions invités, mais c'était trop d'enfants, trop de proximité avec les enfants et trop de ballons partout pour Thomas. Il a vraiment insisté pour partir. Mais franchement, allez-y. Moi, je me suis marré comme une baleine. Alors évidemment, j'avais l'enfant parfait à côté de moi qui rigolait, qui imitait l'ours, qui parlait avec tout le monde, qui chopait les paquets de pop-corn. Enfin bon, voilà, vous imaginez. Mais vous vous marrez aussi même en y allant sans Thomas. Donc allez-y.
Donc c'est tous les week-ends, tous les jours de vacances scolaires et c'est jusqu'à fin mars au Cirque électrique.
Exactement.
Et rappelez-moi le Cirque électrique
Porte des Lilas. On va y aller, on va y retourner hein, dans une autre chronique.
Hein. Allons-y, on ira avec vos enfants. Et on continue avec les petites filles modernes. Titre provisoire, Joël Pommerat.
Alors c'est la chronique de Camilla.
On écoute Camilla.
Les petites filles modernes de Joël Pommerat est un conte contemporain qui interroge les thèmes de l'amour, de l'amitié et du désir. L'histoire est apparemment simple, l'amitié entre deux filles au collège que le monde des adultes ne comprend pas. Elle décide alors de défier ses lois pour s'en affranchir. Mais ses choix comportent des très grands risques. L'amour côtoie la mort dans le plus doux désir. Dans sa simplicité, dans ses dispositifs presque austères, derrière une toile, comme souvent dans les pièces de Castellucci, plongées dans des lumières incroyables et stroboscopiques. Nous vivons pendant 2 heures une expérience qui va bien au-delà de la pièce de théâtre. D'où moi, je l'ai vécu comme un moment très intense. Je ne sais pas toi, Thomas, mais moi, j'ai eu l'impression presque de vivre une expérience mystique. Bref, c'est un conte magique où le surnaturel semble presque apparaître. Nous nous retrouvons dans des univers parallèles avec 2 amants maudits. L'un enfermé dans une boîte, l'autre condamné à l'extérieur, à l'absence, à vivre dans le monde sans l'autre. Le condamné au monde est soumis aux lois du temps et de l'espace. Il vieillit. Pendant ce temps, l'autre, enfermé dans sa boîte, lui demande de bien agir pour pouvoir le libérer. Celui qui est enfermé ne comprend pas ce qui se passe à l'extérieur, ni que son amant est presque en train de disparaître, englouti par les temps et la mort. Une question demeure ouverte pour moi à la fin de cette pièce. Les désirs, l'amour, peuvent-ils nous soustraire, ne serait-ce que pour un instant, au temps et la mort? Je ne sais pas.
Moi, il y avait longtemps que j'avais pas vu un Pommerat, et Pommerat, c'est un peu le Castellucci des Français, hein. Même statut, même place, même rapport au temps, à l'argent, aux moyens, et en général, quand on a du temps et des moyens, bah, ça peut donner de très bonnes choses. Et ce qui est frappant chez Joël Pommerat, bah, c'est que même quand il avait pas tout ça, bah, il était déjà capable du meilleur. Il y a chez lui des gimmicks, des signatures très reconnaissables, les bruits de pas venant des coulisses, un art du hors-champ au théâtre extrêmement malin, qui nous rappelle que le théâtre est toujours plus vaste que ce qu'on voit, qui se joue ailleurs aussi que sur le plateau. Les voix amplifiées qui permettent d'entendre le chuchotement sans naturalisme ni artifice, et surtout un art magistral de la boîte noire, hein, des ombres longues, des corps qui apparaissent et disparaissent, des éléments qui se cachent dans l'obscurité. Et tout cela avec un peu une économie de gestes radicale, hein, ça bouge peu, ça vient se placer, ça dit son texte, c'est frontal, et ça permet une chose essentielle, entendre les mots, parce que Pommerat, c'est pas seulement un metteur en scène, c'est un auteur avec une langue. Et depuis quelque temps, ce qui semble intéresser davantage que la politique, c'est le conte. Les petites filles modernes s'inscrivent clairement dans cette veine, un conte pour les fêtes de fin d'année. Bah, elles sont passées, mais ça joue encore, donc on peut y aller. On retrouve tous les éléments signatures. Si vous avez déjà vu un Pommerat, vous n'êtes pas perdu. Et c'est là que quelque chose se joue. C'est toujours un peu étrange, cette demande implicite faite au maître, refaire ce qu'ils savent faire parfaitement. Alors que l'injonction à produire du neuf pèse surtout sur les artistes émergents. Mais bon, ça c'est un autre débat, excusez-moi, je m'égare. Nous voilà donc en terrain connu, hors champ, micro, compte, tout est millimétré, propre, précis, presque trop, au point d'être terriblement froid, angoissant même. On pense forcément à Samuel Beckett pour cet univers hors temps, suspendu. On pense à David Lynch pour l'absurde qui glisse doucement vers l'horreur. On pense à Ryoji Ikeda pour les effets vidéo d'une maîtrise impressionnante. Et même Pommerat, à un moment donné, il semble viser l'horizon des événements comme dans Interstellar et il y arrive presque. Bah, c'est un spectacle d'une grande prouesse, un spectacle un peu waouh, et c'est peut-être là que se situe le problème. Trop de maîtrise, où est la scorie, où est le grumeau, où est l'erreur, l'accident, le vivant, bon, il y en a pas. Il faut aller voir les petites filles modernes, parce que surtout si vous n'avez jamais vu de Pommerat, mais quand vous sortez, bah, les gens ils disent « j'ai rien compris » et ils disent un autre truc qui est super drôle « je suis un peu frustré ». Voilà.
Donc même sans ours ni ballon, ça vaut le coup?
Oh, je pense que ça vaut le coup, il faut en avoir vu un dans sa vie, et puis c'est bien, c'est pas mal. Hein, mais...
Donc pour cette pièce qui rouvre le Théâtre des Amandiers, vous avez jusqu'au 24 janvier. Et on passe maintenant la parole à Alice pour Dolorès de Virginie Lemoine.
Alors, c'est vraiment un impromptu, on a découvert cette pièce récemment pendant les vacances, et c'est vrai que c'est un très beau spectacle qu'on vous recommande, qu'on est allé voir avec Julien. Dolorès, donc c'est un texte de Yann Guillon et Stéphane Laporte au Théâtre La Bruyère dans le 9e, mis en scène par Virginie Lemoine. C'est une histoire vraie Sylvain et Maria Rubenstein, frères et sœurs jumeaux, qui rencontrent un succès international dans les cabarets des années 30 avec un numéro de flamenco phénoménal. Et ensemble, ils forment le couple vedette d'Imperio et Dolorès. Mais leur ascension va vite être brisée par la montée du nazisme. Et on va voir comment cet homme, qui ne rêvait que de danser sa vie avec sa sœur, va devenir un résistant à l'oppression en accomplissant une vengeance aussi impitoyable que spectaculaire. Moi, c'est vrai que ce spectacle m'a rempli d'une profonde tristesse. Et en même temps, c'était très, très beau. Mais c'est vrai que je suis ressortie. J'ai rarement éprouvé une telle tristesse. Peut-être que c'est le fait que ce soit une histoire vraie, avec jouée d'une façon très sobre, très, très juste, et avec une mise en scène qui faisait vraiment écho et qui répondait à cette sobriété. En tous les cas, je me dis que c'est le pire des cauchemars qu'un artiste puisse vivre que de devenir criminel. Enfin, je veux pas trop dévoiler le texte, mais voilà, quelque part, la résistance est aussi une forme de crime. Comment un artiste qui est porté vers un artiste Enfin voilà, ça m'a rendu tellement triste, je peux plus en dire, j'ai plus de mots pour.
En tout cas, oui, ça vaut vraiment le coup d'aller au Théâtre de la Bruyère. C'est jusqu'à fin avril, c'est de Virginie Lemoine. Et effectivement, c'est un grand moment de théâtre. C'est ne serait-ce que pour le jeu de scène qui est très impressionnant. Et puis cette page d'histoire. Franchement méconnue et pourtant assez hallucinante. Voilà, moi je suis sorti de là. Une des premières choses que je suis allé faire, ça a été d'aller chercher, puisqu'on nous indique que c'est issu d'une histoire vraie, ce qu'il y a de vrai et quelles sont les libertés artistiques qui ont été prises. Et on est surpris de constater tout ce qu'il y a de vrai là-dedans. En tout cas, allez-y.
Mais Virginie Lemoine, c'est Laurent Gérard, c'est ça? Ou c'est où je me trompe?
Je pense pas que ce soit la Virginie Lemoine qui était en binôme avec Laurent Gérard, mais si ça se trouve, c'est peut-être elle.
Bah pourquoi pas?
Et Yann Guillon, c'est qui?
Bah c'est le frère de Stéphane Guillon.
Bah voilà.
Bah voilà, tout ça semble. En fait, c'est un spectacle de comique triste.
Ok. En tout cas, donc c'est jusque fin avril, Théâtre de la Bruyère, et on va enchaîner avec Recherchant à la fois l'argent et la gloire.
Et c'est moi qui m'y colle.
Oui, et tu t'y colles tout seul.
Oui, il paraît que je
m'y colle tout seul. Il n'y aura pas de retour pour le coup.
Et c'est très dur de faire une chronique sur une pièce qu'on n'a pas aimée. Hein, contrairement à ce que certains pensent, je n'y prends aucun plaisir. Je ne suis pas cruel par vocation. Il m'arrive d'être en colère, oui, quand j'ai le sentiment très net qu'on m'a fait perdre une heure de ma vie et qu'on me l'a prise sans vergogne, sans même un petit mot d'excuse. Là, parfois, je me lâche. Mais sinon, non, hein, c'est pas un sport. Et puis, comme dirait Pierre Bourdieu, ou à peu près, il dit mon goût, c'est aussi le dégoût du goût des autres. Donc, quand je dis que je n'ai pas aimé un spectacle, je sais très bien ce que je fais. Je fais du classisme. Hein. J'affirme depuis mon petit promontoire culturel branlant que ce spectacle ne mérite pas d'être vu. Alors, évidemment, c'est faux. Il plaira à d'autres. Il plaît déjà à d'autres. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. Bah, prenons donc Recherchant à la fois l'argent et la gloire de Gabor Rassov. Bah, je pourrais me contenter de dire c'est pas bon et passer à autre chose. Mais soyons honnêtes, objectivement, il y a beaucoup de raison de tiquer. Déjà, le studio Héberto, bah, joli lieu, oui, salle agréable, mais alors le tarif, cher pour ce que c'est, hein, 30€ la place, moi je... Waouh. Un endroit un peu improbable dans Paris, un charme discret, d'accord, mais un prix qui installe tout de suite une attente. Et quand on paye cher, bah, on devient exigeant. C'est humain et c'est sans doute déjà très mal parti. Ensuite, le public, bah, je suis très sensible au public, moi, quand je ne me reconnais pas du tout dans l'autre, bah, quand je sens une connivence qui m'échappe complètement, bah, ça commence mal. Et là encore, je me dis... C'est du classisme pur jus, je le sais, j'assume, mais ça pèse. Alors le pitch, bah, désirant devenir riche et célèbre, un auteur de théâtre décide d'écrire une œuvre parfaite, parfaite parce qu'elle parlerait de tout, absolument de tout, en moins d'une heure. Gageure, évidemment, sauf que déjà, première alerte, l'acteur ne sait pas dire le mot gageure, il dit gageur. Non, ça se dit gageure. Voilà, oui, c'est pénible, oui, c'est classiste, mais le théâtre, c'est aussi une affaire de langue. Il annonce ensuite qu'il fera tout seul, pour limiter les coûts. Mais il y a un batteur sur scène, bah, contradiction, promet qu'il jouera nu, pour réduire le budget encore. Au final, il garde son slip. Et même son t-shirt, bah, publicité mensongère. Hein. On ne plaisante pas, moi, avec ces choses-là. Sur scène, on a l'impression d'un mauvais bottom du songe d'une nuit d'été, mais sans la poésie, un bottom capable du manspreading comme n'importe quel boomer, avec l'ego hypertrophié d'un influenceur Gen Z sur TikTok. Le mélange est curieux, pas forcément heureux. On pourrait aussi y voir une sorte de contrat faustien local Cost, une ode à la paresse pour gens médiocres, mais là, je sens que je vais trop loin et que je deviens franchement désagréable. Le vrai problème, c'est que tout est binaire. Noir ou blanc, riche ou pauvre, génial ou nul, génie ou imposteur. Il multiplie les incarnations de personnages, mais sans changer de voix, sans véritable transformation. Une liste longue comme le bras, mais sans récit, sans chair, sans progression. On coche les cases, on empile les idées, mais rien ne s'incarne vraiment. Et évidemment, vous l'avez compris, je n'ai pas été conquis, je n'ai pas été sensible à cet humour, parce que oui, c'est de l'humour. Oh, c'est censé faire rire, c'est simplement pas le mien. Dans la salle, pourtant, bah, y a des rires, hein, et puis de la connivence, des gens qui se reconnaissent, qui se sentent visés, inclus, flattés peut-être. Alors je me dis quoi à la fin? Bah, que mon jugement n'est pas universel, qu'il est situé, daté, socialement marqué, et que paradoxalement, si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, si mon snobisme vous fatigue, si vous aimez l'humour bavard, l'autodérision très appuyée et les dispositifs un peu paresseux mais complices, bah alors oui, bah faut sans doute aller voir Recherchant à la fois l'argent et la gloire.
Ouais, mais et si vous voulez, c'est samedi et dimanche pour les deux dernières dates.
Mais à coup le pas, mon pauvre Thomas, parce que Moi, je crois que j'y suis arrivé, c'est dans mes mailing lists de musique. Alors, est-ce qu'au moins le batteur en valait la peine ou est-ce que c'était pédant et nul et ça se regardait?
Non,
et puis
c'était
tous les...
pas pédant. C'était... Mais c'est... Pff, ça se regarde. Je pense que je suis juste pas le bon public pour ça. Je pense qu'il y a vraiment des gens pour aller voir ça et c'est très bien et c'est cool, quoi.
Et ces gens, c'est qui, à ton avis? Parce que t'as l'air de dire, immédiatement, tu t'es identifié... Bon, tu disais au Cirque Électrique, identifier un enfant de 3 ans très rapidement, ça, tu l'as
alors
bien dit.
Alors que là, c'était à partir de 12, voilà.
Non mais là qu'est-ce que tu sais, c'était des gens snobs
Non, je pense que moi c'est Brecht qui parle, Brecht il dit qu'il y a trois types de théâtre, il y a le théâtre de divertissement, le théâtre politique et le théâtre rituel. Moi j'adore le théâtre rituel, c'est pour ça que j'adore Castellucci et c'est pour ça que je suis tout le temps en train de le défendre. Le théâtre politique, j'ai pas envie qu'on me fasse la leçon, ça m'intéresse pas trop. Là ça en était pas, c'est du théâtre de divertissement. Ça marche, je veux dire les gens, ils ont besoin d'aller voir une petite chose rigolote après avoir mangé une soucroute.
On dirait que tu nous racontes une pièce en gros de première partie de soirée de temps en temps sur à la télé.
Oui.
Ouais.
Si, ouais. Je sais pas, je regarde pas une pièce à la télé.
Bon, mea culpa, hein, désolé. Mais allez,
mais c'est bien. C'est, je veux dire, il en faut pour tous les goûts.
Et puis n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire j'ai adoré ce spectacle.
Exactement, parce qu'on a très peu de retours d'auditeurs. On se sent très très. Non, on est là. Vous êtes là?
Oui.
Voilà. Merci. La suite.
Oui, avant de se quitter, il nous reste un spectacle. C'est le Fantas Show avec Fantasio et ses invités.
Alors, le Fantas Show, moi, je me le suis gardé pour moi. Donc, c'est encore une fois au Cirque Électrique. Donc, c'était programmé sur 3 dates. Donc, c'est un pari. Hein. Ils ouvrent le soir où le Cirque Électrique est fermé, c'est-à-dire le lundi, et c'est un lundi sur 2. Et ils laissent une carte blanche à Fantasio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je sais que notre chroniqueuse absente aujourd'hui, Hélène, m'a dit qu'elle aimait beaucoup. C'est un contrebassiste, chanteur, performeur complètement fou, qui est finalement assez connecté. On apprend dans le spectacle au Cirque Électrique, aux gens du Cirque Électrique. Comment dire, c'est un improvisateur, quoi. Il nous organise un espèce de cabaret. Complètement improvisé. Alors encore une fois, je vais reprendre les mots de Thomas, comme je fais très souvent. C'est pas vrai. Ça rate. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien, parce qu'évidemment, c'est tellement improvisé. Il se montre les partitions, ça rate complètement. Il y a quand même une base très solide. Hein. C'est une base d'un batteur et d'un type qui fait de la musique électronique. Alors, j'ai pas les noms. Ce sont des amis de Fantasio. Et puis, il y a une chanteuse assez extraordinaire qui chante en italien. D'ailleurs, ça me rappelle, j'y suis allé avec Camilla, hein, qui va nous faire son retour après. Mais on l'a rencontrée pour la première fois. C'est à l'époque où on organisait des soirées avec Camilla. Et on l'a rencontrée au Forte Prenestino à Rome. Donc, c'est une ancienne prison. Et donc, il jouait au milieu de la nuit avec sa contrebasse en chantant son rock complètement indéfinissable. Et là, en fait, il nous revient avec un spectacle qui est entre musique et puis il y a également des tours de cirque avec des gens très étranges, avec une scène, bon, je ne vous raconte pas, à Almodovar, mais de toute façon, ça n'arrivera peut-être probablement plus. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, on sent quand même que le public est averti. Hein. C'est un public de musiciens, d'artistes du cirque qui sont tous là. Encore une fois, alors bon, le spectacle précédent coûtait un peu cher. Là, c'est au chapeau. Hein. Donc allez-y, c'est gratos. Je ne sais pas, parce qu'en fait, il nous a annoncé le dernier lundi, avant Noël, que ça allait être reconduit très probablement. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas encore marqué sur le site. Mais
oui, parce que
ça.
J'étais en train de vérifier en même temps que t'en parlais pour voir s'il y avait des dates
ça, parce qu'il y aurait dû y avoir ce soir, il y a peut-être ce soir, et peut-être que ce n'est pas indiqué. Donc, enfin bon, voilà. Mais toi, Camilla, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, quoi dire? Cette jam session organisée par Fantasio Cirque Électrique est une vraie expérience incroyable. Donc oui, donc j'étais avec toi, Guigui, et je trouvais ça assez fou, extraordinaire, très chaleureux. Donc quand on est rentré, on a attendu longtemps, on a attendu presque une heure avant que la jam session commence par rapport à l'heure annoncée. Mais dans tous les cas, ça valait le coup. Effectivement, on est installé sous le chapiteau. Il y a tous ces musiciens qui prennent place petit à petit. Il y a Fantasio qui arrive et qui commence avec une introduction incroyable. Nous parlons de son retour de Chine il y a 30 ans, quand il n'espérait que de retrouver une fumerie d'opium au pouvoir, noyer son désespoir, et etc. Et donc on rentre complètement dans cette atmosphère et on se laisse porter par la musique de Fantasio et de ses compagnons. Et on, pendant 2 heures, on voyage à travers des voix, des sons. Je trouvais ça absolument fou dans ces cadres, dans ces beaux cadres qu'est le cirque électrique. Donc voilà, moi j'aimerais bien y retourner. Il y a peut-être une jeune session ce soir, à 21h, je ne sais pas, à 20h, peut-être là. Elle commence, mais dans tous les cas, vous pouvez encore y aller, mais je ne sais pas, il faut vérifier.
Oui, donc on a regardé, rien n'est indiqué, mais on vous invite alors à aller le lundi faire le pied de grue Porte des Lilas. Et puis, si jamais c'est fermé, chercher un endroit où on peut boire un matcha.
Jamais.
Jamais. Bon, en tout cas, c'est la fin de l'émission. On va juste récapituler très rapidement. On a vu, on a entendu avec grand plaisir. Excusez-moi, Lara Mariani pour Laura Mariani, pardon, pour Ma Foudre. Avant les chroniques, j'étais en train de regarder si jamais il y avait effectivement. Donc on a écouté Jazz Poésique. Ça c'est à la BAP, à la Bibliothèque Associative BAM de Malakoff. On a parlé de Fanfare Expérience au Cirque Électrique, des Petites Filles Modernes, titre provisoire au Théâtre des Amandiers, de Dolores au Théâtre de la Bruyère, de Recherchant à la fois l'argent et la gloire au Studio Huberto, et là du Fantas Show de Fantasio au Cirque Électrique. Sur ce, on se retrouve le 2 février en direct et on laisse l'antenne. Au revoir.
À bientôt.
Ciao. Je me suis pas